Hello à tous, bienvenue les amis pour ce podcast 501.
T'es sûr?
Et oui, après le 500, où c'était la teuf du Slibar.
Ok.
Vous avez tout défoncé, n'est-ce pas? Faut rappeler ou pas?
Nos lecteurs ont tout défoncé aussi.
Tu te rappelles de cette partie?
Exactement.
Bah voilà, c'était ça, c'était la fête. Et aujourd'hui,
moi,
on revient à un podcast un peu plus normal, on va dire, un peu moins foufou, avec moins de bière. Avec Plume à ma gauche.
Wesh.
À la gauche de la gauche. À ma droite.
Et merde.
Le trait Thomas, dommage pour toi.
Eh ouais, bah désolé.
Le trait Thomas, c'est nouveau,
ouais,
c'est
ça. Tu connais pas
on peut en faire un adjectif.
Non, je connaissais pas.
Et à l'extrême droite.
Salut.
Le trait Camille Allard. Voilà.
Ça fait de toi un espèce de centriste, non, un truc comme ça?
Non, moi je suis rien du tout, moi je suis animaliste.
Ok.
Et voilà, je vous ai tous eu. Et bien pour ce podcast 501, décidément j'ai toujours du mal à le dire, un podcast. Hein. Podcast. 501. De quoi allons-nous parler? De plein de choses. Il y aura le win, le fail, comme d'habitude. Il y a 10 ans sur GB, avec des choses super cheloues, dont Thomas va parler.
Ah bon?
Et puis, il y aura 3 thèmes, ce podcast 501. On va parler de la playdate, ou le playdate, on ne sait pas en fait.
Mais si, on sait.
Je me demande si ça va être...
Dans la cour de récré, tu t'imagines qu'on dira quoi?
J'en sais rien.
Eh, vas-y, ramène ta playdate. C'est mieux.
Non, on dira ton papa, c'est un hipster.
Je serais très bizarre, une playdate, non? Un playdate, non, j'en sais rien.
La playdate.
Le thème 2, on va parler Total War 3 Kingdoms avec Camille Allard.
Exact.
Qui va nous en dire beaucoup, parce que lui c'est un vrai spécialiste. Le thème 3, ce sera Super Mario Maker 2.
Eh oui,
Maker.
Oui. Tu t'y attendais pas, hein?
Ouais, tu connais pas Maker?
Non.
Angela Merker.
Ok. Ouais,
donc,
Super Mario Maker.
Bah là c'est Maker 2, la suite.
C'est exactement ça. Et voilà, vous allez voir que c'est...
Et tu connais Marc Decascos ou pas?
Non, tu connais des cassos.
Il faudrait que tu te renseignes sur cet acteur très connu.
Exactement. Et puis on finira avec l'anniversaire, un jeu très aimable, vous allez voir. Mais on commence tout de suite avec le win, n'est-ce pas, mon cher Plume?
Oui, absolument.
C'est vrai, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le win de cette semaine?
Le win de cette semaine, ça concerne Sonic le film.
C'est vrai?
Étonnamment.
Oh, incroyable.
Oui, c'est...
Putain, alors là, c'est...
On s'attendait pas à ce qu'il se retrouve là-dedans.
Il a eu tellement de fails que...
Mais il y est dans le win parce que on a eu une bonne nouvelle sur Twitter, enfin surtout une bonne nouvelle par rapport aux personnes qui font le film, par
Tout
rapport aux animateurs 3D
ouais.
Qu'on a réquisitionné pour changer le design de Sonic. C'est Jeff Fowler qui est intervenu sur Twitter avec une belle petite annonce pour les gens qui justement doivent refaire le design de Sonic. C'est que la sortie du film a été décalée. Donc déjà le design dégueulasse de Sonic qu'on voit ici n'existera plus, mais en plus les gens qui vont s'en occuper ne vont pas être martyrisés. D'où le hashtag qu'il a mis sur son tweet d'ailleurs. Aucun animateur n'a été blessé durant ce redesign. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que le film va finalement sortir le 14 février 2020 avec autre chose que cette merde en guise de Sonic.
Et attention, ça peut être pire, hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais peut-être qu'ils vont pas le montrer cette fois, parce que deux reports comme ça, à mon avis, ça coûte des sous, hein.
Mais il y a quand même une rumeur assez insistante et qui semble avoir été confirmée par l'intéressé, qui pourrait laisser penser que Sonic aura droit peut-être à un traitement vraiment sympa, parce que je crois que c'était ce week-end, c'est Tyson S qui est le réalisateur de Sonic Mania Adventures, le dessin animé Sonic Mania Adventures, et qui aussi dessine les aventures de Sonic en comics. Il a répondu à plein de tweets qui le voyaient comme étant l'un des designers principaux du nouveau Sonic du film. Il a répondu avec la tête de Tony Stark dans Iron Man 1, le moment où Tony Stark avoue à la presse qu'il est Iron Man. Juste cette tête.
Enfin, c'est lui,
et donc, il y a des probabilités quand même que Tyson S travaille dessus. Il n'a pas démenti, il n'a pas confirmé, il a juste posé cette tête. Mais ça suffit pour la plupart des fans à imaginer qu'il travaillera sur un nouveau design. Et on peut dire que si on connaît un peu son boulot, il s'y connaît.
Oui, a priori.
Donc ça devrait bien se passer.
Il sait de quoi il parle.
Et Sonic devrait avoir des gants. Et peut-être qu'il aura des dents. Je sais pas s'il a des dents dans le
Il aura des jambes normales.
Oui, il aura des dents.
Chaussures, en plus. C'est parce qu'il sourit quand
des
même.
Des chaussures rouges.
Mais comme le rappelle Poufy avec justement l'un des dessins animés de Sonic Mania,
exact.
On est très très proche du design des années 90 avec un petit Sonic avec un peu de bide bedonnant.
Toi, c'est ça, il avait un petit
Mais lui, il avait refait un dessin en réponse justement au premier trailer qui était une espèce d'adaptation de ce Sonic là en quelque chose d'un peu plus joli à voir. Donc peut-être que. Mais on n'en sait rien finalement.
On ne sait pas encore.
On n'en a aucune idée.
Mais je pense qu'à mon avis, ils vont pas le dévoiler avant le 19 février, je pense.
Mais ils sont le 14.
Non, c'est le 14, pardon.
Ouais.
Il me semblait que tu avais dit le 20.
Bien sûr qu'ils vont le montrer avant Noël.
Avant le 13 février.
Et que le design sera génial. Ça se trouve, c'est un plan marketing depuis le début.
Super bien organisé.
Je l'ai lu sur le net, celle-là. C'était prévu depuis le début. C'était dans le calendrier.
Pour faire monter la sauce.
Exactement. Pour qu'on parle du film.
C'est pas impossible.
Ouais, on n'en sait rien, on n'est pas dans les coulisses de Hollywood.
Ouais, alors l'idée que tout le monde défonce ton film avant, je suis pas sûr qu'en termes marketing ce soit fantastique.
Oui, mais tu sais, il y a des gens... phrases qu'on parle de moi en mal ou en bien, du moment
exactement.
Qu'on parle de moi.
Ouais, voilà, on peut ne pas être ça. D'accord avec cette affirmation.
On en connaît, et malheureusement, des fois, bah, ils pensent comme ça et ils sont contents quand même.
Donc, en tout cas, ça reste une très bonne nouvelle pour tous les gens qui ont bossé sur le film, puisque, comme on le rappelait il y a quelques semaines, à la base, il ne devait pas être reporté, ce qui voulait dire beaucoup plus de travail pour tout le monde, et là, a priori, ça va moins cruncher.
Exact.
Ils auront le temps de manger, peut-être. En plus
avec un peu de chance.
Ouais, et de rentrer chez eux peut-être une fois par semaine.
Exact.
Avec un peu de chance.
Alors de quoi se plaint-on, franchement?
Oui, c'est vrai.
Franchement, ouais, c'est scandaleux. Et bien, après ce win sur Sonic, et ça c'est une bonne nouvelle, le fail malheureusement.
Et oui,
mon cher Thomas.
Gros fail, puisque nous avons dévoilé cette semaine les toutes premières images de Mario Kart Tour, l'épisode pensé pour les mobiles, les smartphones.
La bêta.
Et qui est effectivement depuis quelques jours en bêta, alors uniquement pour les joueurs japonais et américains. Nous, on n'a pas eu la chance de faire partie des tirés au sort. Mais si vous avez reçu le sésame par mail, eh bien vous avez peut-être pu essayer les premiers circuits de Mario Kart Tour.
Qu'on voit en image là. Pour
et
ceux
le
qui
moins
font
qu'on puisse dire, eh ben, c'est que ça nous a pas franchement fait rêver ce qu'on a pu. Découvrir en image. Poufy vous montre un extrait de gameplay avec Toad, on en a eu aussi avec Skellrex. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont fuité entre guillemets sur internet, et bien que Nintendo nous ait dit que non, pas de problème, c'est une phase de bêta, donc
c'est autorisé.
Il y a des vidéos, finalement quasiment tout a été supprimé de la toile. Ça a été très difficile de retrouver a posteriori des vidéos de gameplay. Et ce qu'on y trouve et ce qu'on y découvre, c'est que le jeu déjà vous propulsera automatiquement. Donc vous n'aurez qu'à jouer en fait avec les directions gauche-droite comme on peut le voir sur ces images.
Et l'accélération et le frein aussi, non?
Non,
le
kart accélère.
Ah oui, d'accord.
A priori tout seul.
Ah, je pensais qu'il y avait quand même au moins.
En termes de sensation, bon, c'est pas comme s'il fallait souvent freiner dans un Mario Kart, on va pas se mentir. Mais voilà, en termes de maniabilité, on imagine que ça va forcément changer quelques habitudes. Et ce qu'on a pu découvrir aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a que des circuits rétro en fait qui ont été proposés. Là, on vous propose en vidéo un circuit tiré. Évidemment du meilleur épisode, hein, le GameCube, Double Dash, sauf que là vous êtes tout seul. Et ouais, c'est vrai, je t'assure, tu devrais vérifier, ça marche toujours. Et il y a 13 circuits pour l'instant qui ont été dévoilés, tous inspirés d'anciens épisodes, Super NES, N64, Game Boy Advance, GameCube, DS et 3DS.
Pas mal.
Donc rien de neuf sous le soleil pour l'instant, on espère qu'il y a quand même pas mal de surprises qui nous attendent encore du côté de chez Nintendo, parce que visuellement ça fait un peu peur, les sensations de vitesse sont pas particulièrement là.
Ça a l'air abominable.
Bah voilà,
surtout quand tu sais que t'as des jeux de bagnole qui sont extraordinairement fluides et rapides.
Non mais enfin là,
ça fait bizarre quoi.
C'est vrai que sur mobile, en plus, il y a de la concurrence niveau jeu de course.
Hein. Bah oui.
Bah,
très très étonnant quand même. Ou alors soit c'est une vraie, c'est même pas une bêta, c'est une alpha, et dans ce cas, effectivement, il y a encore des choses à terminer, à revoir, ou alors effectivement c'est,
bah oui, c'est une alpha où ils n'ont pas du tout finalisé les graphismes, mais ils jouent en 50 cm3 parce que là c'est pas possible quoi,
d'avoir ça, traîne,
comme
ça.
Ça expliquerait pas mal de choses, mais très officiellement le jeu est en bêta.
T'as vu le dataplan?
Et je vous rappelle qu'il est censé sortir cet été en plus, donc on est plutôt dans une phase finale de polish où j'imagine que Nintendo va analyser le retour des joueurs.
C'est pas le circuit de 64 ça?
Ouais, c'est un des meilleurs.
J'ai adoré ce circuit. Quand t'as le train qui passe et tout, enfin, c'est génial.
Oui, première coupe, si je dis pas de bêtises, c'est le quatrième circuit de la première coupe. Enfin voilà,
donc c'est un peu le fail.
Ça nous a pas fait rêver hein, de découvrir ces premières images, et visiblement vous non plus. Hein, l'accueil a pas été très enthousiaste de la part de nos lecteurs.
J'espère qu'on va pas se faire striker sur YouTube avec la vidéo quand ils vont voir qu'on a passé cette vidéo.
Mais non, t'inquiète pas.
Ah, c'est trop tard, elle est à jamais enregistrée dans ce podcast vidéo maintenant.
Et s'ils le voient, on va se faire striker ou pas. Bon bref, c'était quand même le fail, et si on se fait striker, ça sera un double fail, et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave, on l'enlèvera et puis on fera une...
On réenregistrera le podcast, tu veux dire?
Non,
incroyable.
Cette phase, on mettra des images.
Des images de Poufy?
De toi, en train de manger du chocolat, voilà.
Ok, très bien.
Et bien, c'est l'heure de la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog.
C'est vrai.
Et mon cher Thomas, qui avait-il il y a 10 ans sur Gameblog? Que s'était-il passé?
Je te le donne en mille.
Est-ce que
mon
tu te souviens
phrase,
ou pas?
Des chiffres.
C'est vrai?
Eh oui, une fois de plus.
Des chiffres par milliard ou par centaines de milliards?
Des chiffres par dizaines de millions en l'occurrence.
C'est classe.
Puisque on vous a ramené cette bonne vieille Xbox 360
bien
sur la table.
Et bien dégueulasse.
Bien fat, alors dégueulasse je sais pas, mais bien fat ça c'est une certitude. Et puisque l'on parle de chiffres, évidemment, c'est toi mon cher Trace qui nous parlait.
Tu crois qu'il nous abreuve de chiffres ou pas Microsoft?
Exactement, des ventes de la Xbox 360 4 ans après sa sortie, donc en 2009. Et la console venait de franchir la barre des 30 millions d'unités dans le monde. Et du coup, ben, on s'est permis de comparer un petit peu. Alors, tu nous parlais du ratio de jeux vendus qui était quand même assez élevé parce qu'on était à plus de 8 jeux par console, ce qui est plutôt pas mal.
Et c'est beaucoup.
Le Xbox Live aussi qui commençait à véritablement prendre son envol avec beaucoup, beaucoup de nouveaux membres qui arrivaient. Et face à ces 30 millions de consoles écoulées au bout de 4 ans d'existence, on est allé regarder un petit peu les chiffres de vente de Xbox One. Eh bien, elle est au-dessus.
Bon réflexe.
34 millions de consoles écoulées sur la même durée pour la Xbox One, alors qu'on s'imagine, enfin, on a l'habitude de dire que la 360 a cartonné là où la One a un petit peu de mal face à la PlayStation 4. Bah, finalement, en volume, la console de Microsoft se vend mieux que la génération précédente. Et pour finir avec les chiffres, au final, sur les derniers chiffres que j'ai pu trouver, la 360 s'est vendue à 84 millions d'unités sur toute la durée de son existence.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, donc elle en était à peu près à un tiers de sa vie.
Tout à fait.
30 millions. Elle a fait un bon chiffre au final, effectivement. On verra pour la One ce qui adviendra.
Non, on en parlera 10 ans après.
Voilà, exactement.
Dans le podcast 1000 et quelques.
1154. Tout à fait.
Et il y a 10 ans sur Gameblog, bien, c'était aussi le pré-E3, mine de rien. Et qui dit pré-E3 dit fuite en tout genre ou teasing. Et là, en l'occurrence, une fois de plus, c'est peut-être le maître absolu du teasing, Hideo Kojima, qui essayait de nous induire peut-être
déjà,
en erreur.
Déjà à l'époque.
Déjà à l'époque, et c'était une fois de plus toi, mon cher Trace, qui nous en parlait.
Oui, je me souviens de cette news, effectivement.
Puisque Kojima Productions nous dévoilait un site un petit peu teaser où on se demandait si ça allait avoir un rapport avec un futur épisode de la saga Metal Gear. Évidemment, vous le savez aujourd'hui, pas du tout. Les deux masques que l'on voit font référence à Lords of Shadow, qui est, je parle sous contrôle de plume, notre docteur S. Castlevania.
Exact.
Un peu une nouvelle tentative de relancer la licence Castlevania, qui avait un petit peu disparu des écrans malheureusement à cette époque-là. Premier épisode en 3D réalisé par le studio espagnol...
Mercury Steam.
Pardon ?
Mercury Steam. Moi j'ai mon buzzer, moi.
Mercury Steam, tout à fait.
Tout à fait.
Qui en avait fait 3 d'ailleurs, puisqu'on avait eu droit aussi à un épisode portable et à un Lords of Shadow 2.
Ouais.
Et bah, il se trouve que Kojima avait eu son mot à dire, entre guillemets, dans le développement de ce jeu. Alors évidemment, c'était développé chez Mercury Steam, mais je crois que Kojima avait demandé à redesigner un petit peu le personnage principal de cet épisode.
Alors l'histoire, telle que je la connais selon mes sources, qui était présente quand ça s'est passé, le truc c'est que, en fait, Mercury Steam a présenté un jeu qui s'appelait Lords of Shadow durant une présentation générale à Tokyo du line-up Konami. Un peu avant, Koji Igarashi avait présenté un jeu en 3D, aussi un Castlevania en 3D, mais qui n'était pas terrible du tout, qui est complètement perdu d'ailleurs. Et Kojima est arrivé près des gens de Mercury Steam, donc Dave Cox en l'occurrence, qui était le producteur. Après avoir vu la présentation de Lord of Shadow, lui a dit « Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, je te file un coup de main, etc. » Et par... plusieurs mécanismes, c'est devenu un reboot de Castlevania sur lequel Kojima s'est totalement investi parce qu'il aurait peut-être même pu récupérer selon encore les mêmes sources, il aurait dû récupérer même Castlevania pour lui, c'est finalement Mercury Steam qui s'en est chargé. Donc lui, effectivement, il avait voulu retravailler notamment le design du héros qui lui plaisait pas au départ et intégrer deux trois petites choses au jeu en plus. Et donc voilà pourquoi ça s'est retrouvé sous la bannière Kojima Production à ce moment-là.
Et il s'est aussi beaucoup impliqué dans la localisation japonaise du titre. Je crois que c'est lui qui a fait un peu le
casting. Il fait la voix du Chupacabra aussi.
C'est vrai
dans le jeu, absolument.
D'accord.
Ouais. C'est lui qui pousse les petits cris.
Quelle classe.
Et donc voilà, un peu de teasing déjà il y a 10 ans de la part d'Hideo Kojima.
Bah, on est en plein dedans là au moment où on
attend exactement. Évidemment des nouvelles, puisque ça fait 3 jours de suite, je crois, que Kojima nous tease une nouvelle annonce concernant Death Stranding, comme quoi on ne se refait pas. Et pour finir, il y a 10 ans sur Gameblog, une fois de plus, c'est l'E3 qui commençait à dicter un petit peu sa loi. Et pour le coup, c'est Feu Julo qui nous parlait d'une nouvelle licence, un certain Nier, qui se dévoilait en vidéo et qui à l'époque ne l'a pas laissé sur le cul, hein, je le cite littéralement, en parlant de la réalisation.
La réalisation.
On sait ce qu'il est advenu un petit peu après de la licence, hein. Nier qui sera sorti, je vais pas dire dans la confidentialité la plus totale, mais qui aura pas été un succès commercial incroyable.
Non, au Japon il est pas passé inaperçu, mais c'est vrai qu'en Europe et aux États-Unis c'était. Bon, déjà il a eu des critiques qui étaient très moyennes, et puis le jeu était moche, quoi, tout simplement. Donc ça aide pas. Et moi ce que je vois avec ce trailer surtout, c'est que
C'est que c'était bizarre.
Pas mal de différences avec, avec le jeu final.
Tout à fait.
En termes de design du perso, en termes de ce qui se passe là avec les histoires d'ombre dans les villes. Il y avait des trucs assez différents, mine de rien.
Tellement dire Assassin's Creed.
Je suis un peu surpris d'ailleurs de retrouver ça comme ça. Ça m'émeut.
C'est vrai ?
Carrément.
T'as envie de pleurer ou pas ?
Alors, ça avait moyennement ému Emmerich, qui l'avait testé à l'époque sur Gameblog.
Absolument.
Et qui avait conclu.
2 sur 10.
Non, il lui avait mis 6 quand même.
Ah, bah j'étais pas très loin.
En disant, voilà donc un titre qui risque de diviser, évidemment, mais qu'il faut au moins essayer si vous êtes amateur du genre. Voilà.
Quelle classe.
Je pense que pour le coup, il s'était pas trompé.
Bien vrai, quand salut.
Et puis après, quand tu vois la fin du jeu, enfin les fins du jeu, tu te dis, oui, ok, d'accord, en fait, c'était un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Donc voilà. Puis surtout que. Qui aurait cru il y a 10 ans en voyant ce premier trailer qu'aujourd'hui on aurait un Nier Automata qui est un des jeux les plus appréciés de cette génération, qui a plus de 4 millions d'exemplaires vendus si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Que la série allait devenir finalement culte. Bah moi j'aurais jamais cru en voyant ça.
Et pourtant c'est à l'époque qu'il fallait se procurer parce que en attendant avec le succès de Nier Automata et l'absence de succès de Nier, le premier avait pris beaucoup de valeur a posteriori sur le net.
Donc,
je crois qu'aujourd'hui il coûte un peu de pognon si vous voulez vous le procurer d'occasion.
Ouais, et signé, je vous raconte pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref.
Eh bien oui, merci pour cette rubrique il y a 10 ans.
Mais je vous en prie.
Souvenir parmi les qui remonte à la surface.
C'est vrai, on te remercie jamais assez pour cette rubrique il y a 10 ans.
Ah, mais vous pouvez, allez-y. Mais j'entends pas beaucoup Camille d'ailleurs là-dessus. Non, qui est
parce qu'il y a 10
un
ans,
peu
il
avare
il dormait encore.
Exactement.
Il dormait encore
il y a 10 ans. J'étais encore à la fac, j'étais au lycée. Donc.
Je vais dire, moi j'étais à la fac il y a 10 ans.
J'étais au lycée, donc j'avoue que j'ai le jeu vidéo, j'étais encore un peu.
C'est vrai.
Très flou.
Ah bah bravo.
Enfin, je jouais que sur PC déjà à l'époque.
Donc... Oh, ça a tellement changé.
Tu ne suivais même pas les chiffres commentés par Traz. Alors ça me...
Ça, c'est scandaleux.
Ah, ça, c'est honteux.
Eh bien, mes chers aminches, il est temps de passer au thème number one.
Ah.
Qui est
la Playdate.
Un truc très bizarre. Le ou la Playdate. Donc, la nouvelle console de... Je ne sais plus qui.
Panic,
voilà, c'est ça. Mm. Qui avait distribué Firewatch et notre jeu
qui va s'occuper d'Untitled Goose Game
ça, voilà.
Surtout
qui est extrêmement tendu
à quel le potentiel GOTY 2019.
Ah ben ça y est, c'est déjà,
attends,
c'est
mais
déjà
forcément
faire.
Ils vont le faire dessus.
Mais non, ça n'a rien à voir, ça ne sera pas du tout le...
Non mais je sais bien,
vous n'avez pas suivi le débat, madame Royale.
J'ai suivi, c'est même moi qui ai écrit la news, donc mais pourquoi il ne le ferait pas dessus, ça serait rigolo.
Mais parce que l'intention de Playdead, c'est d'avoir des jeux originaux qui n'ont rien à voir avec le...
Je trouve ça con,
et qui ont été créés spécifiquement pour
moi,
elle.
Je pense qu'ils font cette console avec Untitled Goose Game.
Non mais ils peuvent même le faire avec, avec PUBG, hein, je pense. Tant qu'on y est.
Bah oui.
Tu le vois avec la manivelle là, tu recharges ton
fusil
et tout.
Après, effectivement, il aura pas la même gueule que
Battlefield 1.
Ce qu'ils ont montré.
Allez, tu recharges ta baïonnette comme ça.
Bah pourquoi pas.
Bah
on va peut-être expliquer ce que c'est avant de partir dans un grand débat sur qu'est-ce qui va sortir.
Ah bah je connais pas du tout le sujet moi personnellement.
Qu'est-ce que tu penses ?
J'étais en vacances à ce moment-là.
Qu'est-ce que tu penses de la Playdate ?
Bah moi ce que j'en pense, c'est qu'en fait, on a tous été surpris par l'annonce en fait, qui a eu lieu sur Twitter par Panic, qui a présenté ça un petit peu. De façon surprenante.
Pouf. On vous avait rien dit. Et voilà,
ça
tout
a poupé
le projet
d'un coup.
Exactement.
Regardez, hop,
et là, on se retrouve avec une petite machine toute jaune. Alors, visiblement, il y aura d'autres couleurs, hein, si j'en crois des
le
vidéos.
Le premier trailer, ouais.
Une petite machine donc qui fait la couverture de Edge. Donc, ce qui veut dire que.
Bah, ils étaient dans le secret des yeux.
Il y a quelque chose d'intéressant derrière une histoire, en tout cas. Et c'est donc une petite console qui, comme vous le voyez, est très mignonne, avec.
Conçue par des rebelles. Et backé par des superstars.
Conçu par des rebelles, quoi ?
Je sais pas ce que ça veut dire.
C'est la couverture du numéro 333.
Oui, pardon, je
faisais pas
l'image,
je faisais pas attention.
Mais c'est quoi le rapport ? Je comprends pas.
Bon, bah, les rebelles, c'est Panic, et les superstars, c'est les joueurs, enfin les designers.
C'est les game designers qui sont déjà listés pour les premiers jeux.
Petite machine de 74 mm sur 76 sur 9 mm.
Elle est minuscule.
Donc, minuscule avec vraiment une faible épaisseur. Un écran noir et blanc type LCD sans rétroéclairage, mais avec une surface. Qui sera suffisamment bien couverte pour qu'il n'y ait pas trop de reflets dessus. Un LCD donc de 2,7 pouces, c'est encore une fois minuscule en termes de diagonale. Résolution grotesque, 400 sur 240p à l'heure où on se bat pour jouer en 4K et peut-être bientôt en 8K, c'est juste assez dément. Compatible Wi-Fi, Bluetooth, port USB-C, les jeux qui vont se télécharger en toile de fond, que ça marchera avec un pass saisonnier. Pour l'instant, 12 jeux ont été prévus pour le lancement de la machine qui interviendra en 2020 au prix, et là
2020.
On parlera du prix peut-être encore un petit peu après, à un prix qui n'est pas là pour défier toute concurrence,
non.
Et qui fait dire donc que ce ne sera pas non plus pour tout le monde. Et sa particularité, sa grosse particularité à cette machine qui visiblement était cachée dans Firewatch et sera aussi cachée dans Untitled Goose Game, sa particularité c'est d'avoir cette manivelle sur la droite. Ça sera donc le nouveau gimmick.
Qui est à l'intérieur d'une encoche, hein, elle est bien cachée. La manivelle, ouais. Elle rentre à l'intérieur et puis effectivement tu peux la sortir pour la déployer. Et...
un gimmick donc qui va servir à l'instar de ce qu'on avait pu avoir, je sais pas, avec la 3DS, enfin surtout la...
avec les écrans tactiles, les doubles écrans,
exactement.
Tout un tas de mécaniques nouvelles qui vont potentiellement émerger.
Et le premier exemple qu'on voit, c'est un jeu conçu par le papa de Katamari Damacy,
Keita Takahashi,
voilà, qui s'appelle Cranking Time Travel Adventure.
C'est ça.
Donc un jeu dans lequel la manivelle servira à avancer ou reculer le temps.
Oui, pour éviter les pièges, en fait, quand tu vois des pièges. Non, c'est même pas reculer ou avancer dans le temps, c'est éviter les obstacles, en fait. Alors, tu vois, t'as un obstacle qui apparaît, pour ceux qui voient la vidéo, et hop, là, quand l'obstacle apparaît, tu remets en arrière, et du coup, l'obstacle passe au-dessus de toi.
Ouais, mais c'est là que ça veut dire qu'il y a intérêt à ce que la manivelle soit de bonne qualité, parce qu'à mon avis, elle doit être bien utilisée. Là,
si tu t'en sers beaucoup. Mais donc, elle a l'air solide quand même, hein, parce que ça a l'air d'être un truc mécanique.
Ils ont annoncé avoir travaillé dessus pendant 4 ans avant de dévoiler un petit peu le concept. Donc je pense qu'en termes d'ingénierie, etc., ils ont dû vraiment, vraiment bosser.
Oui, effectivement.
Et là, on peut la voir d'ailleurs en premier, elle est vraiment minuscule.
Oui, elle est très, très, très petite. Hein. Ouais. Bah, tiens, dans la poche, voilà, tu ranges ça, tu joues et t'es content quoi. Et effectivement, la particularité sur certains... enfin, pour les jeux notamment, c'est que. Bah, c'est Wi-Fi et Bluetooth, donc du coup tu verras apparaître des jeux de temps en temps qui se téléchargeront sur ta machine.
Et tu ne sauras pas quand ils arrivent. C'est ce que Plume commençait à dire, c'est l'une des particularités de cette petite machine.
C'est super bizarre.
C'est que les jeux vont être livrés au compte-gouttes. Mmh. Donc effectivement, il y a une première saison de 12 jeux qui a été annoncée que vous pourrez commander d'un coup, mais vous ne savez pas quels sont les jeux qui vont débarquer, ni quand est-ce qu'ils vont arriver. Mmh. C'est la console qui va s'illuminer, mais comme à l'époque de la Wii, mine de rien, quand il y avait des mises à jour, un matin, la console va s'éclairer et vous dire tiens, t'as reçu un nouveau jeu aujourd'hui.
C'est cool, ce mystère, moi je trouve ça génial.
Le concept est intéressant.
Ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Rami Ismail en fin d'année et qui est en cours actuellement, c'est-à-dire de proposer une expérience vidéoludique par jour. Je ne sais plus sur quel site. On a fait la news sur Gameblog où il y a un développeur qui a fait un mini-jeu par jour. Il y en a comme ça pendant 365 jours et ça me rappelle un peu ça dans le sens où on saura jamais ce qu'on aura mais qu'on a quand même des chances de s'amuser parce que c'est quand même des personnes qui sont qui font partie de la scène la scène indé. Bon, peut-être pas le papa de Katamari Damacy, même si maintenant il est passé indé maintenant lui ou pas.
Pour Watam, je ne sais plus qui l'édite, mais en tout cas il a toujours eu une vision bien à lui qu'on retrouve pas forcément à côté.
Parce que là les noms qu'on voit, donc t'as Zach Cage. Là, je me tourne vers toi parce que tu les connais mieux que moi, en général. Bennett Foddy, Sean Eman, bref, des noms.
Ils ont tous une solide réputation dans le milieu du jeu indé. Ouais. Mm-hmm. Mais il n'y aura évidemment pas que ça, même si je crois que plusieurs d'entre eux vont faire deux jeux à certains moments, dont on découvre éventuellement les noms, mais comme le studio Panic cherche vraiment à garder le mystère autour des jeux qui vont être dévoilés, on risque de pas en avoir beaucoup plus que ça en fait avant de les recevoir la première fois, en tout cas pour ceux qui se sont inscrits, parce que ils ont précisé d'ores et déjà que les quantités allaient être plutôt limitées au départ, que c'était un vrai pari et que ça allait dépendre mine de rien de l'accueil du public.
Tu fais la préco du couteau, ça donne envie de...
Ah bah moi je suis direct inscrit dans la mailing list.
Moi aussi je me suis inscrit,
on en a pas parlé, mais il y a peut-être un élément un peu prohibitif, même si le principe je le trouve vraiment fantastique, c'est le prix.
Ouais, le prix est
voilà, 149$.
Ouais, t'es deg, hein.
149$ donc pour cette machine, ça fait un peu cher pour une console, c'est plus cher qu'une 2DS. Mine de rien, donc
ça fait cher le pari.
Ouais, ça fait un pari assez...
Bon, sauf si vous êtes joueur de poker invétéré, dans quel cas c'est peut-être pas grand chose, mais...
Et du coup, quand on a des trucs comme ça, forcément, si ça avait été beaucoup moins cher, genre à 50€, bon, tu te dis allez, j'y vais, je me pose pas de questions, mais à 149, ça commence à devenir un petit peu. Ça commence à gratter beaucoup.
Ça commence à être beaucoup, beaucoup. Ou alors, il y a vraiment, effectivement, comme tu disais, des puces.
Il y a une puce cachée, tu veux dire, comme la PlayStation.
Plutôt.
Moi, je dis, faut voir.
Plutôt puissante, mais après, j'en sais rien.
Faudrait pas qu'on tombe dans
le. Ou alors, c'est la manivelle qui a coûté très, très, très cher.
Je crois savoir que dans nos commentaires par rapport à cette news, ça s'écharpe. En parlant d'une console inutile, d'un projet mort-né, je crois que ça compare beaucoup à la Ouya, notamment.
Même chez nous
aussi.
Oui, on l'a entendu dans les murs de la rédaction.
Vrai. Sauf que tout le monde va l'acheter comme d'hab pour juste avoir un gadget de merde avec soi.
Mais pourquoi pas
juste pour l'objet.
Juste pour info, le lendemain donc de la diffusion des premières informations concernant cette machine, Panic partageait des chiffres.
Et 70 000
personnes, plus de 70 000 personnes en 24 heures qui étaient sur la waiting list. des centaines de développeurs voilà, qui se sont intéressés à ça. Bon, évidemment, des sceptiques.
Des centaines, ça me paraît énorme, mais bon.
On sait jamais, hein. Mmh. Après, tu peux. Il y a des gens, ils peuvent se dire qu'ils sont développeurs, ils le sont pas. Hein.
Ceci dit, c'est vrai que
tout est possible.
T'as l'impression que tu peux faire un jeu en une semaine, hein. Donc peut-être que pour eux, c'est super rentable.
Peut-être que c'est des codeurs.
Tout c'est même des milliers d'ailleurs qui sont évoqués dans le tweet. Mmh. C'est...
Oui, pardon.
Oui, des milliers.
Milliers,
oui.
Pardon. Milliers.
N'ayons pas peur des mots.
Ouais. 23 000 followers en 24 heures. On en est à un beaucoup plus, je crois, maintenant.
Ah bah oui.
Bah écoute, moi je pense que. En tout cas, la première mission. Faire parler d'eux et avoir et créer un petit peu de ramdam comme on dit dans le dictionnaire ouais. français
du buzz
ça fonctionne pour eux maintenant bah, faudra voir ce que oui. je sais pas si Edge est déjà paru ou pas
oui, je crois qu'il est paru
j'espère bien
oui, il est paru
moi j'espère le récupérer demain moi donc
c'est oui. vrai que la couve rien que pour la couve c'est magnifique
bah ouais, de toute façon Edge c'est connu pour ça je crois aussi. Que je vais aller me l'acheter aussi demain du coup
bah oui
parce qu'il faut se renseigner sur cette machine on sait jamais
faut se mettre au travail surtout.
Bah, c'est une machine de Paris en tout cas parce
Vas-y,
que...
si tu peux en prendre deux, j'en veux bien une.
Si tu peux en prendre deux, t'en veux bien.
Je te rembourserai un jour.
C'est vrai. Ah, en plus, j'ai la preuve en vidéo.
Je te donnerai un ticket resto.
Ok, si je t'en ramène un aussi, du coup, t'en aurais deux de Mac, du coup.
Bah non, je veux qu'un, moi, ça me suffit.
Ok.
Non, mais juste pour la couve, je la trouve jolie, elle est bien foutue.
Bah ok.
Mais pour le coup, si on a été plutôt emballé nous de manière générale à la rédaction, on a bien vu que de votre côté, les lecteurs n'ont pas été super jouasses.
Oui.
Alors forcément, l'écran sans rétroéclairage, ça a fait pas mal parler.
Ça peut faire mal aux yeux.
Entre sa résolution, l'absence de rétroéclairage, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu archaïque en 2019. Mm-hmm. Et pour le coup, on le comprend.
Et c'est difficile de bousculer les habitudes hein, quand t'as déjà tes consoles établies, etc. Tu vois un nouvel arrivant qui sort de nulle part. Le mec, c'est pas un constructeur de machines.
Non, c'est leur première machine.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
En plus, ils ont tout le hardware à l'intérieur, c'est des trucs maison quoi. Enfin, ouais. Propriétaires qu'ils ont fait eux-mêmes.
Oui, parce qu'à la base, les mecs, ils faisaient juste des petits logiciels pour Mac et PC, je crois. Je sais plus exactement ce que c'était. Leur cœur de métier, ça n'a rien à voir avec la construction de machines comme ça quoi.
Donc, et je pense qu'il y a eu un vrai boulot derrière et que ça explique peut-être aussi un peu le prix parce que c'est quand même une console vraiment miniature. Pour le coup, c'est un truc qu'on va pouvoir glisser dans n'importe quelle poche.
Ouais.
Et mine de rien, la manivelle que tu peux sortir, ranger et qui va avoir un impact sur le gameplay, il faut quand même réussir à faire rentrer tout ça. Alors, on rappelle que la manivelle ne sert pas du tout à charger la console. Hein. Ça, on a pu le croire éventuellement au début. C'est vraiment une manière de rentrer des inputs un petit peu différentes.
Oui, par exemple, tu voyais une image tout à l'heure où il y avait marqué crank, ça veut bien dire
activer la manivelle.
Crank tout
start.
Tout start, exactement. Donc c'est un peu rigolo.
Non, mais ce qui est très excitant système. Concernant cette machine, c'est que si effectivement les développeurs veulent jouer le jeu, ils ont des moyens très limités et que aujourd'hui la scène indé aime beaucoup avoir des moyens limités pour créer des vraies surprises. Donc, je pense en premier lieu maintenant à Baba Is You qui est une merveille alors qu'il y a quasiment rien à l'écran.
Baba et toi
j'en citerai d'autres, Minit par exemple aussi. Je sais plus quels autres jeux ces derniers temps.
VVVVV, enfin il y a plein de choses qui tentent des trucs avec effectivement peu de moyens.
Voilà, et c'est peut-être ce qui le fait d'être limité, ce qui suscite le plus l'imagination, enfin, ce qui excite le plus l'imagination.
Il risque d'y avoir des choses vraiment très très particulières, quoi.
Complètement.
Il y a beaucoup de développeurs japonais des années 80 qui justement expliquaient à quel point ils avaient dû faire preuve de beaucoup d'inventivité à l'époque où ils codaient sur NES, sur Master System et même les consoles d'avant. Disons voilà, les ressources nous permettaient pas de faire exactement ce qu'on voulait. Il a fallu qu'on ruse, il a fallu qu'on soit inventif sur tout un tas de trucs. Peut-être qu'effectivement c'est ce que va provoquer la Playdate.
Mais par contre, vous avez pas peur qu'il y a un flou de gigantesque des milliards de jeux, on sait plus où donner de la tête et il n'y en a pas un qui sorte du lot et que ça soit un peu n'importe quoi.
Bah on l'ignore pour l'instant puisqu'on sait quasiment rien. Alors je pense qu'il y aura de toute façon un contrôle parce que si Panic veut garder ce rythme de sortie au compte-gouttes, ça veut dire qu'il faut que tu aies la main sur ton planning de sortie.
Bah oui.
On précise d'ailleurs qu'au-delà des 12 premiers jeux qui ont été annoncés, officiellement après, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas de suite,
ouais.
C'est une bouteille à la mer.
D'ailleurs, c'était un des reproches que faisaient certains sites américains. Ils disaient on n'a pas de visibilité sur la suite. Il y a juste ce.
Et c'est un reproche légitime. légitime. Effectivement, oui, au-delà, oui. Au-delà des 12 jeux et de la console à 150 balles, voilà. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Ouais. Après,
donc, c'est un pari, ouais,
voilà, ça peut être un pari. On peut se dire que ça va cartonner ou que ça va effectivement proposer des expériences vraiment différentes. Moi, j'aurais plutôt tendance à partir là-dessus. Je suis fan des petits concepts qui n'ont pas besoin de tout un tas d'heures pour décliner un petit peu leur mécanique. Donc,
j'imagine quand des bidouilleurs vont se pencher dessus, ils vont la transformer en Game Boy.
Ils vont ramener la couleur et tout, c'est n'importe quoi.
Ouais, bah exactement, tout est possible.
Ils vont changer les puces et l'écran, ils vont être un écran 4K OLED. Le truc n'a rien à voir avec le...
À quand la Switch dans la Playdate, c'est ça?
Exactement.
Mais non, mais je trouve que ça a l'air prometteur.
Oui,
moi,
tout à fait. Et par contre, pareil pour le business model, on ne sait pas trop grand chose là-dessus, quoi.
Il n'y a pas de prix
pour les développeurs.
Il n'y a pas de prix à l'unité pour les jeux qui a été dévoilé pour l'instant.
Oui,
ça reste très très mystérieux. Après, Panic a précisé qu'au fur et à mesure, en se rapprochant de la sortie qui est prévue en 2020, on allait quand même en apprendre un petit peu plus forcément sur le concept. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'on a sous la dent. Mais moi, ça pique ma curiosité quand même.
Pareil, hein, clairement, je suis assez curieux. Et en plus, l'objet en jaune comme ça, ça tape, quoi.
Moi, je pense qu'en rouge, il sera mieux.
Bah, je sais pas.
Je suis désolé.
Enfin, moi, j'aime bien
dis ça parce que t'es à la gauche de Traz.
Exactement.
Donc, c'est sûr qu'il y aura plusieurs couleurs alors.
Bah, il y a le petit trailer qu'on a vu tout à l'heure qui montre.
Je me souviens même plus.
Qui montre plein de couleurs.
On a vu du bleu, on a vu du rouge.
Voilà. Ah, c'est vrai, vous avez raison.
Bah ouais.
Ah, je pensais pas que c'était un truc officiel, ça. Je pensais que c'était quelqu'un qui. Ah, c'est un mock-up, voilà.
Donc, ah, c'est un mock-up.
Mais c'est parce que je pensais.
Oh merde.
Parce que moi, j'ai vu qu'une version jaune. Voilà, c'est un mock-up. C'est des gens qui ont fait ça.
D'ailleurs, Edge a vraiment axé sur la couleur jaune.
Mais oui, c'est ça. Parce
qu'on voit, ils sont jaunes, donc.
Mais après, peut-être qu'effectivement, si ça fonctionne, ils vont faire plusieurs couleurs. Il y a pas de raison.
Bah si, visiblement.
Et peut-être même avec des matières différentes, avec je sais pas, une peau de chat, une peau de chien.
Peut-être, ouais.
C'est pas très cool. Mais effectivement, en jaune, moi j'aime bien. Après, voilà. Si on peut customiser, acheter des trucs sur le net. Peut-être que Lila, le business model, en fait, tu vas pouvoir customiser comme tu veux ta machine.
Et la rendre plus grosse et plus épaisse, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis au final, ça va être n'importe quoi.
Ouais, surtout quand la VR va arriver dessus dans 3 ans.
Exactement. Bon, bah voilà, je sais pas qu'on peut rajouter quoi d'autre dessus, à part que pour l'instant, c'est les mystères mystérieux.
Et justement, c'est le mystère qui attire aussi.
Ben, et que c'est tombé comme un cheveu sur la soupe, quoi, quelque part.
C'est ce qui rend la console excitante,
c'est
je suis
ça,
d'accord.
Ouais, je trouve ça vachement cool.
Et du coup, est-ce qu'il y aura quelque chose à l'E3 de montrer?
C'est ce que j'avais demandé, ouais. C'est ce qu'ils ont pré... ils ont dit qu'ils allaient être à l'E3 ou...
Il y aura forcément des.
T'as pas été contacté?
Non, malheureusement. Alors après, à l'E3,
il y aura un stand derrière.
Comme dans
caché,
tous les salons, voilà. Vous avez un coin qui s'appelle l'Indiecade, qui est un peu le paradis du jeu indé où vous avez tout un tas d'expérimentations plus ou moins bizarres.
C'est évident qu'ils y seront.
Enfin, on se souvient de Rudy qui a testé un truc avec une vraie corde au dernier Tokyo Game Show. C'est le coin où il se passe des choses. Peut-être qu'ils auront un stand à l'Indiecade, mais ça colle pas avec la philosophie qui est de dire on garde vraiment le plus de choses secrètes possible.
Ils peuvent montrer des trucs à des développeurs, c'est tout. Hein.
Ou un jeu de lancement, le jeu de lancement par exemple.
Voilà. Oui, le jeu de Takahashi.
Ils ont besoin de faire venir des gens aussi. Hein, donc. Il faut qu'ils fassent des deals avec des gens, avec des développeurs, etc. Donc le 3, à mon avis, c'est tout recommandé hein, pour ça.
Bah ouais, tu dis balle avec la console dans les mains, ils les montrent à quelques personnes, ils en font une vidéo, ça fait le buzz.
À mon avis, ça serait plus montré à la Gamer Assembly ou un truc comme ça, en fait. C'est plus le genre de l'ADN, à mon avis, du projet.
Je sais pas, le 3, c'est quand même l'endroit, enfin, c'est quand même le plus gros salon du monde. Hein, donc,
mais il y a tellement
si
de choses
qui taper dans le mille.
Oui, mais justement, ils ont pas l'air de vouloir forcément s'ouvrir à un marché de masse. Ça, pour l'instant, ça prend plutôt la direction d'une console au tirage limité avec. Un petit public, parce que bon, on va pas se mentir, faut quand même bien vouloir mettre 150 balles dans cette petite machine.
C'est quand même pas rien,
C'est voilà,
bah,
ça reste
une somme. Personne peut le faire en fait, c'est ça le
c'est
truc.
Vrai.
Exactement.
Non, je trouve ça vraiment cool aussi. Pour le coup, je supporte totalement Thomas dans ce truc.
C'est vrai. Putain, c'est bien la première fois.
C'est la première fois.
Ouais. Parce que aux urnes, c'est pas la même histoire.
Aux urnes citoyens, exact. Ben voilà, hein, ce qu'on pouvait dire
ben
sur
voilà. On est plutôt en décalage avec vous hein, pour le coup. On a bien lu toutes vos critiques qui sont pour la plupart fondées, mais bah y a rien à faire. Nous, ça nous branche.
Y a rien à faire, c'est déjà prêt. Ok, d'accord.
Richard,
bon, c'est ton dernier mot, ça y est.
Ah ben moi, j'ai plus rien à dire.
C'est votre dernier mot.
J'en veux une et puis c'est tout.
Sur la playdate, ok. Ouais, de toute façon, on s'est tous inscrits sur la mailing list, donc on sera tenu au courant et on tiendra au courant si on a 50 versions à la rédac.
Ouais, et peut-être qu'elle finira mieux que la Ouya.
Ouais. Ah bah la Ouya, moi j'avoue qu'à l'époque j'y croyais pas du tout, hein, mais bon après.
C'est la grande différence, c'est qu'à l'annonce de la Ouya, ça m'avait rien fait non plus.
Ça
alors que là.
Une sans faire bouger l'autre, c'est ça.
Vraiment, ça pique ma curiosité. Donc voilà, à voir ce que l'avenir nous réserve pour la petite Playdate.
Tout à fait. Et bien après cette console super chelou, dont on attend des nouvelles très bientôt, j'espère. Il est temps de passer au thème numéro 2, n'est-ce pas Camille?
Exact.
Avec ton fameux test de...
Total War, les trois royaumes.
Exactement.
Qui signe le retour du studio Creative Assembly sur le terrain de l'historique. Puisque
quel casse.
ils avaient présenté Warhammer il y a quelques années et beaucoup de fans demandaient le retour donc d'un épisode historique, c'est l'épisode canonique.
Tu connais Loubou?
Et donc comme son nom l'indique, le jeu nous envoie à la période des Trois Royaumes. Qui est en fait la période post-unification de la Chine telle qu'on la connaît, puisque la Chine c'est le premier empire au monde et c'est le premier pays qui a été unifié en fait au monde. Et donc ça raconte le chemin qui a été fait, parcouru par tous les hommes emblématiques de cette époque pour réussir à arriver à une unification. La plupart du jeu s'inspire des chroniques donc de Shen Shu qui a écrit 65 volumes en 290 après Jésus-Christ, donc sur cette fameuse période.
Classe.
Et ce sont des écrits qui sont très romancés, comme à l'époque c'était souvent le cas, d'où la présence dans le jeu d'un fameux mode romance. Pourquoi un mode romance? Puisqu'en fait ça va pousser le jeu à nous mettre en exergue des personnages avec des capacités extraordinaires. Comme la saga de jeux vidéo dont j'ai oublié le nom.
Les Sengoku, oui, qui s'appelle les Musou.
Voilà, c'est ça.
Dynasty Warriors.
Dynasty Warriors, chez nous, merci. Qui effectivement dépeint souvent les mêmes événements historiques.
Et Romance of the Three Kingdoms aussi, qui existe. Ouais. C'est une vieille, très vieille licence, Super NES notamment.
Donc la période des Trois Royaumes, donc, elle couvre une sphère assez large, donc de 220 après Jésus-Christ à 280 après Jésus-Christ. Et donc le jeu nous propose deux modes. Le mode dit historique, classique comme on le connaît dans les Total War, et le mode romance qui va permettre d'avoir des personnages avec des capacités extraordinaires sur le champ de bataille et avec des capacités dites extraordinaires aussi dans le mode campagne, puisque petit rappel, un Total War se sépare en deux sessions de gameplay, enfin deux phases de gameplay importantes. La carte de campagne dans laquelle on va faire des mouvements de troupes, on va faire de la diplomatie, on va nouer des liens économiques avec les autres nations, etc., etc. Donc ça c'est sur une carte générale de la Chine. Et ensuite on a la phase de combat, donc les combats en temps réel, les batailles dans lesquelles on dirige nos armées, nos bataillons, etc., etc. Et donc nos héros vont avoir une importance dans ces deux phases, puisque certains héros par exemple ont des capacités diplomatiques que d'autres n'ont pas. Et sur le champ de bataille on va pouvoir par exemple, je sais pas, faire un boost de morale pendant quelques minutes, rappeler les troupes qui sont en train de s'enfuir, etc., etc. Enfin plein de choses comme ça qui peuvent aider à retourner, faire un retournement de situation pendant une bataille, même lorsqu'elle est assez critique pour nous. Donc ce Total War, la période historique est plutôt sympathique. Alors on sait qu'on comprend tout de suite qu'ils veulent toucher le marché chinois avec, puisque le marché chinois est un marché PC dans l'ADN, et un marché vraiment que tous les développeurs essayent de charmer, puisque c'est quelque chose qu'il faut toucher, qu'il faut attraper. Peut-être que ça dira un peu moins aux occidentaux qui ne connaissent pas forcément ça, parce que c'est vrai que les Trois Royaumes, mis à part quelques jeux qui restent quand même assez... qui sont certes connus en France, mais ça reste quand même obscur pour le large public.
Ça reste des jeux de niche. Oui.
Exactement.
Il y a les films de Hong Kong qui ont beaucoup traité.
Mais je t'assure que ça reste très obscur dans l'esprit des gens. Tu parles des Trois Royaumes à des gens, la plupart des gens ne connaissent
pas du
tout.
C'est surtout que tu as du mal à retenir les milliers de personnages cette.
Surtout qu'on l'a jamais étudié. Enfin, à moins de s'intéresser à la question, c'est pas une période que tu étudies dans ta scolarité.
C'est ça. Quand tu sors un Total War sur l'Antiquité romaine, sur le Moyen-Âge occidental, sur la naissance des nations,
la l'unification du Japon, parce qu'il y en avait eu
Même le Japon finalement ça parle finalement plus occidentaux, mais c'est vrai que la Chine c'est quelque chose qui est c'est vraiment cool de l'introduire par le biais de ce jeu là, puisque c'est quelque chose qui reste assez méconnu. On l'étudie très peu, même pour le coup j'ai fait des études d'histoire honnêtement sur mes 7 ans d'études j'ai jamais traité de la Chine en particulier. C'était vraiment des options,
alors qu'aujourd'hui c'est essentiel.
Alors maintenant, oui,
vu qu'on va tous parler chinois dans 15 ans.
Oui, justement, d'ailleurs, il y a mon neveu qui est en train de passer son bac et il m'a expliqué qu'il traitait de la Chine, mais uniquement à partir de 1950. Et donc, toute la période auparavant est totalement éludée. Et donc, du coup, ça reste quand même assez obscur pour les Occidentaux.
Et c'est d'autant plus intéressant que malgré les dates que tu nous cites, plus 220, plus 280, ça reste la période moyenâgeuse en fait de la Chine.
En fait, en gros, pour nous, c'est
jusqu'en l'an 1200.
Pour nous, c'est l'Antiquité, puisque le Moyen-Âge commence techniquement à la chute de Rome, donc en l'an 500.
Jusqu'en 1400.
Comment ?
jusqu'en 1400.
Alors, t'as plusieurs
jusqu'en 1400 et la chute de
la chute du Moyen Âge, c'est 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Napoléon.
Et la chute de l'Empire romain d'Occident.
Redécouverte, ouais. Ou alors la chute de Constantinople aussi. Ouais. Les deux dates sont acquises.
Bon,
mais c'est vrai que pour eux, bah, c'est considéré comme le Moyen Âge, parce que la Chine était en avance technologiquement, artistiquement, culturellement sur nous.
D'ailleurs, il y a plein de pyramides en Chine. Hein. Je sais que tout le monde, personne n'y croit, mais c'est vrai. Hein.
Non, mais ça, c'est vrai.
Ils ont découvert plein de pyramides en Chine parce que ça a été fermé pendant tellement de siècles.
Ouais.
Il n'y a pas d'âge pour être mégalo et demander des sépultures complètement démesurées.
Je crois que ça a été filmé qu'une seule fois. Il n'y a qu'une vidéo sur le net qui traîne.
Le territoire de la Chine
mec qui a fait un reportage dans les années 70 ou 80, je sais plus. Il a pu filmer une pyramide et elles sont gigantesques.
Ouais, mais
bon,
c'est
bref, c'était un aparté.
Non, mais c'est intéressant, en plus, on a eu des rapprochements, juste pour finir sur cette parenthèse historique, on a eu des rapprochements entre l'Antiquité et ce Moyen-Âge chinois, puisque selon les rumeurs, il y a des liens avec les Romains qui auraient eu lieu avec la Chine, et notamment une légion, la 9e légion romaine, qui serait perdue en Chine. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gènes latins dans certaines peuplades en Chine, puisque ça aurait été les rapports entre les Romains qui seraient installés là-bas. Voilà, petite parenthèse terminée historique, mais du coup c'est hyper intéressant et ça permet aux développeurs de Creative Assembly aussi de prendre leur marque et de faire la continuité de Warhammer, parce que dans Warhammer ils avaient établi de nouvelles choses, notamment des héros. Ça n'existe totalement pas dans les Total War, et là du coup c'est l'occasion de les réutiliser et de le mêler à l'historique, et ça permet aussi de reprendre tout le savoir-faire qu'ils ont eu sur Warhammer, quoi. La diplomatie améliorée, la prise en charge des pouvoirs sur le champ de bataille, etc. Et ma foi, c'est fait de très belle manière. Alors déjà artistiquement, toi, tu as pu le voir d'ailleurs, Thomas.
Je confirme.
Je t'avais montré un peu à quoi ça ressemblait. Artistiquement, j'ai la carte de campagne est vraiment un sans faute. Elle est somptueuse. Elle mélange de la culture traditionnelle chinoise, notamment par le biais des stamps qui viennent garnir les temps de chargement. Donc les temps de chargement sont jamais, déjà ils sont pas très longs, mais ils sont jamais chiants, parce que ils nous montrent de belles œuvres d'art.
Ça
vaut le coup. La carte de campagne pour les premiums, vous la voyez à l'écran. Elle est somptueuse,
très stylisée.
Elle est inspirée des aquarelles de l'époque. Et franchement, c'est vraiment bien foutu. Par contre, là où d'un niveau technique c'est un peu en décas, c'est pour les batailles, puisqu'ils se sont reposés sur le même moteur graphique depuis maintenant Rome Total Wars 2, qui est sorti en 2012, si mes souvenirs sont bons.
Ah oui, ça
donc
fait long.
Ça commence à dater.
Alors
ça,
ils
l'ont amélioré, mais il y a vraiment c'est vraiment un jeu fainéant par rapport à ça. On sent vraiment qu'ils sont reposés sur leur laurier, qu'ils ne sont pas attardés là-dessus, ils sont attardés sur le gameplay. Remarque, c'est bien aussi, mais
ils n'ont pas du tout amélioré le moteur.
Ils l'ont amélioré un peu, mais c'est
surtout les machines qui font que ça va un peu plus vite.
C'est ça. Artistiquement, ça a été amélioré. La carte de campagne est plus belle que les épisodes précédents, mais vraiment dans les batailles en temps réel, ça commence vraiment à se voir. Et il faut vraiment qu'ils changent le truc. Surtout que la saga Total Wars a été de tout temps connue pour être une claque graphique en termes de stratégie, en termes de jeu PC. Je m'en rappelle, moi, à l'époque, Rome 2, il mettait à genoux les PC. Empire Total War, encore pire. Je me rappelle, moi, j'ai mon PC qui s'éteignait au début de chaque bataille.
Il rendait l'âme, il en pouvait plus.
C'est ça. Et avec évidemment la possibilité de les faire tomber sur les PC moins performants en baissant les graphismes. C'est aussi ça le charme du PC. Mais c'était quand même une claque. Et quand on le montait au maximum, c'était vraiment une claque technique, quoi. Et ça, malheureusement, ça commence à disparaître avec les épisodes qui sortent petit à petit par Creative Assembly.
Comme tu l'as dit, c'est destiné au marché chinois en particulier,
et
du coup tous les ordinateurs peut-être dans cette contrée ne sont pas capables de pousser non plus, donc on garde l'ancien moteur, c'est
clair et net. Après, le jeu est pas moche, hein, mais c'est vrai que ça aurait été bienvenu à un changement de moteur.
Oui, c'est pas les standards actuels sur ça.
Et d'ailleurs, là vous voyez aussi à l'écran, pour les premiums, on a le mode romance touche aussi les graphismes, puisqu'on a une espèce de filtre roman, si vous m'appelez comme ça, qui permet d'ajouter un peu des couleurs un peu rosées, un peu bleutées, très aquarelles en fait, sur le champ de bataille, et de voir notamment dans le ciel ces couleurs se voient vraiment beaucoup, et notamment les changements de saison, puisque maintenant le jeu fonctionne par saison, par les tours. Avant c'était des tours par année ou par mois, etc. Là c'est par saison, c'est à dire qu'en fait chaque tour est une saison, donc on a les 4 saisons, et ça permet de varier les plaisirs, notamment artistiquement, puisque évidemment entre l'automne et l'hiver, ça va vraiment changer drastiquement. Et aussi en termes de gameplay, puisque quand c'est l'hiver, nos troupes vont être moins motivées à combattre. On va avoir peut-être des pénuries de nourriture, donc de blé, etc., de grains. Enfin, pas de blé en l'occurrence, mais de grains. Et ça peut être vraiment être problématique pour le riz, pour les rizières, etc. Et ça, justement, c'est pris en compte. Maintenant, on a la nourriture qui est prise en compte. Et si nos soldats ne sont pas nourris, eh bien, ils peuvent se révolter. Et ça, ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien trouvé. Sans être aussi profond qu'un jeu Paradox Interactive avec tout l'esprit de wargame où on peut vraiment faire des centaines de milliers de choses différentes, c'est pas poussé jusque là parce que c'est le centre, comme son nom l'indique, Total War, ça reste la bataille et le combat reste quand même prôné, poussé, etc. Mais la partie diplomatique reste toutefois intéressante. Quelque chose qui a été longuement demandé par les fans, c'est l'arbre généalogique qui permet de suivre un peu ce que devient notre famille, puisque surtout dans le mode romance, les familles sont vraiment extrêmement importantes. Et on va pouvoir comme ça lier d'amitié certains personnages avec d'autres, avoir un système de rivalité aussi, et évidemment marier nos enfants avec les enfants de nos voisins. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours dans le système de rivalité, on a aussi un système de duel que vous faites voir à l'écran pour les premiums.
T'as toute l'armée autour de combattants. Ouais.
En fait, en gros, et ça c'est uniquement dans le mode romance. Donc si vous faites ça, en gros, vous avez un bouton en début de partie, vous cliquez dessus et l'adversaire peut accepter ou non le duel, en sachant que s'il le refuse, il perd en autorité sur le long terme. Et du coup, ça permet en fait d'avoir nos deux héros, nos deux généraux qui se battent, généraux ennemis, notre généraux de notre armée, qui vont se battre pour décider de l'issue de la bataille.
Ah, c'est forcément un général qui se bat ?
Ouais.
C'est pas un troufion de base, machin.
Non, c'est toujours un.
D'accord, un gradé.
C'est du sérieux à ce moment-là.
Ouais. Et du coup, c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, quand on réussit à vaincre, mettre à terre l'ennemi, le général ennemi, du coup, on gagne un boost de morale pour nos armées. Et ça peut vraiment, vraiment changer le cours de la bataille. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et ça permet de pousser en fait à améliorer nos personnages, puisque nos personnages s'améliorent en expérience et en compétences au fur et à mesure. On a d'ailleurs tout un arbre qui est dédié. Nos troupes aussi, d'ailleurs, puisqu'on a un arbre technologique d'ailleurs qui est toute beauté, qui est en fait un cerisier en fleurs. Et en fait, chaque branche désigne une partie technologique, et chaque feuille du cerisier désigne une technologie. Et donc du coup ça permet comme ça de sublimer cette partie là. Chaque menu vraiment est pensé de la plus belle manière et pour s'inscrire totalement avec la culture chinoise, et c'est vraiment super. Pareil pour les musiques sont somptueuses, elles sont vraiment très reposantes. On a un mélange de musique orchestrale et asiatique traditionnelle pour les batailles et de musique purement traditionnelle pour la carte de campagne. Et du coup ça se met en accord avec les phases de réflexion. En fait, tu réfléchis à tes tactiques, ta stratégie sur le long terme, et t'as une petite musique qui va te bercer. C'est vraiment hyper agréable. Et c'est moi par exemple, mon test, je l'ai écrit avec la musique traditionnelle du jeu. C'est vraiment, ça te berce, c'est vraiment hyper agréable quoi, à l'oreille. Et c'est vraiment super.
Et t'étais en combinaison antique.
T'aimais bien les doublages aussi. Tu nous as beaucoup parlé du chinois.
Ouais, puisqu'en fait ils ont eu la bonne idée de proposer de jouer le jeu entièrement en chinois traditionnel. Et donc du coup en fait on va pouvoir comme ça uniquement avec une case à cocher mettre tout le jeu en chinois.
Évidemment, en mandarin.
En mandarin
ou cantonais.
En mandarin. Attends. De ce que j'ai compris en fait c'est du chinois traditionnel.
Ah oui, donc c'est encore plus.
Et donc du coup c'est du chinois qui est pas forcément d'actualité de nos jours en fait.
Ou alors dans des contrées éloignées.
C'est ça qui est le chinois diplomatique. Alors je suis pas un spécialiste dans le langage chinois, mais
je devrais. Voilà.
Ils ont fait l'effort de le faire et c'est vraiment super.
Bah, c'est bien de le proposer, effectivement.
Ouais, c'est vraiment bien de le proposer, surtout que les doublages sont de qualité. Quand on clique sur une unité dans le champ de bataille, on les entend parler en chinois. Pareil pour tous les conseillers qui s'adressent à vous en chinois, avec évidemment une traduction française par le biais de sous-titres, mais c'est vraiment bien foutu. Les cinématiques aussi, elles ont été retravaillées, elles sont sympathiques. Après, le jeu souffre quand même du côté un peu fainéant de la technique
un peu paresseuse.
Qui est un peu paresseuse. Pareil aussi, alors ça c'est la période historique qui veut ça, mais la rejouabilité n'est pas forcément aussi bien qu'escompté, puisque bah, malgré tout on reste quand même sur, sur une seule et même culture, contrairement à un Rome Total War où on a 7 ou 8 cultures différentes et chaque fois ça va nous assurer une jouabilité différente. Là on reste quand même sur la culture chinoise, et c'est vrai qu'en termes de, aussi bien de technique militaire ou de techniques diplomatiques, on reste quand même sur des choses très proches et il n'y a pas fondamentalement de grosses différences. Donc ça peut poser un problème comme
donc
ça l'était.
Tu penses que pour le marché occidental ça va pas forcément fonctionner, les gens vont pas forcément
Je pense que le jeu va étonner en fait, parce qu'il rajoute quand même une bonne dose de contenu différente et surtout il change par rapport aux autres. Après c'est vrai que je pense pas que ça va être un jeu, enfin ça va être un jeu qui va être très difficilement difficile à suivre en fait sur le long terme, parce que Creative Assembly a tendance à suivre avec des DLC. Par exemple pour Rome il y avait la guerre des Gaules, il y avait le triumvirat Auguste, Marc-Antoine et Lépide, alors que là
il s'est quand même passé des choses. Ça nous parle moins, c'est sûr.
Non, mais c'est pas ça, c'est que ça risque de moins changer le gameplay, d'offrir une jouabilité, moindre en fait. Sauf si vraiment ils font un bond dans le temps, comme la guerre entre la Chine et la Corée, qui peut être très sympa à jouer, ou même contre les...
Ah, on rigolait bien en ce moment-là.
Je crois que le Japon aussi a fait des escarmouches en Chine, mais beaucoup plus tard. Donc si jamais ils font un bond dans le temps, ça peut être très sympa, mais après c'est vrai que en termes de rejouabilité ça risque d'être problématique sur le long terme. Je vois mal en fait le jeu survivre forcément très longtemps, en sachant que honnêtement au bout de 2-3 campagnes, alors je crois qu'il y a 11 commandements différents, j'ai plus le souvenir en tête, mais honnêtement il n'y a pas 11 manières de rejouer le jeu quoi. Au bout de 2-3 campagnes on aura fait le tour. Après une campagne dure très longtemps, une campagne peut durer 20 heures. Donc ça reste quand même une grosse durée de vie, mais par rapport au Total War habituel, traditionnel, c'est un peu
c'est énorme, quand même.
C'est un peu réduit quoi.
Moi j'ai jamais réussi à accrocher ce genre de jeu, je trouve ça tellement dur à chaque fois.
Bah là ils ont quand même poussé un didacticiel qui est très très fourni, très garni, et qui t'explique vraiment de A à Z le fonctionnement du jeu. Donc honnêtement je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour Creative Assembly.
Quelle classe. Et
ce serait Kingdom, où je lui ai mis 7 sur 10.
Donc justement, j'allais te demander.
C'est un bon jeu, mais c'est pas forcément le meilleur tout à l'heure de la saga. Ouais.
Et,
là, quoi.
Et techniquement, encore à revoir.
C'est ça, ouais. Vraiment des choses à revoir. Quoi.
Par contre, t'as commencé à apprendre le chinois avec. Et plutôt cool.
Par contre,
maintenant, ils nous insultent en chinois, en fait.
Non, mais c'est comme les jeux Paradox ou les jeux Total War, c'est qu'en fait, ça t'ouvre de nouveaux horizons et t'as vraiment envie de découvrir. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de regarder sur Amazon ou autre des livres sur cette période, parce que c'est hyper intéressant. C'est vraiment une période hyper intéressante et hyper intelligente. Donc voilà.
Quelle préciosité. Eh bien écoute, merci Camille pour ce test, donc auquel tu as mis 7 sur 10.
Exactement.
À lire sur Gameblog si vous ne l'avez pas encore fait, comme Plume. Je suis sûr que tu l'as pas lu son test. Ok, tout est dit.
Je crois que tout est dit.
Mais attends.
Oui.
Si, je l'ai lu.
Il l'a relu pour la lecture.
D'accord. Ah oui, je l'ai relu à fond.
Tu l'as relu et j'ai trouvé plein de
Ah, mais j'ai relu que ça d'ailleurs cette semaine.
C'est vrai. Ah ouais. Et si on parlait d'un certain Mario, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, faut voir Thomas pour ça.
D'accord. Bah, Thomas, si on parlait d'un certain Super Mario Maker 2.
Ah bah oui.
Qu'est-ce qu'on pense?
Pourquoi pas?
Notre thème numéro 3.
Pourquoi pas? Et bien, effectivement.
Tu crois que c'est un jeu qui va tout donner ou pas?
Il va tout giver même.
Ouais, exactement.
Alors pour le coup, c'est effectivement ce qui risque d'arriver, parce que on a pu découvrir Super Mario Maker 2 pendant à peu près une heure et demie.
Ouais. T'as kiffé la vibe?
Plutôt, ouais.
C'est vrai.
Vous avez découvert énormément de nouveautés que cet épisode avait à proposer par l'intermédiaire d'un Nintendo Direct qui était quand même bien chargé en termes d'annonces. Et du coup, on a pu voir ce que ça donne un petit peu manette en main. Et ça s'annonce d'une richesse assez incroyable quand même. Moi, je vois la différence avec le premier. Le premier, j'ai beaucoup joué, non pas en tant que créateur, mais en tant que cobaye à essayer les niveaux des potes,
etc. J'en ai fait pas mal. Hein.
J'ai fait des niveaux à la con, un peu parodiques, etc. Mais ça s'est vite stoppé là.
Ils sont forts hein, quand même.
Là, vous avez un contenu assez dantesque, à commencer par un tout nouveau mode solo.
Exact, et ça c'est bien.
Que Poufy a la bonne idée de vous présenter en image, où vous le voyez, on a l'ami Mario dans sa tenue de chantier.
Il ne peut pas y croire, t'as vu.
Et pour le coup, la princesse Peach n'a pas disparu, c'est son château qui a disparu. Et du coup, Mario va devoir jouer les chefs de chantier et rebâtir le château de la princesse Peach. Et pour ça, eh bien, vous avez Toad et Toadette qui vont vous demander de l'argent d'un côté et vous proposer des missions pour gagner de l'argent de l'autre.
Tu te rappelles de Bob et Bobette ou pas?
Ouais, tout à fait. J'ai jamais trop regardé, moi, mais.
C'est trop bien, Bob et Bobette.
Ok, bah regardez Bob et Bobette. Alors, voilà. C'était pas une BD, non, plutôt.
Si, c'est une BD.
Ouais, ok. Moi, je préférais Placide et Museau.
C'est vrai, c'est moi aussi, mais Bob et Bobette, c'est toute mon enfance.
Ok.
Quand j'étais en Belgique, tout
et
ça.
Tu connais Josette et Joko?
Quand t'étais en Belgique.
Ben, ah, j'étais souvent en Belgique.
Histoire de traces. Hein.
J'en avais plein de Bob et Bobette, mais je crois que je les ai tous perdus.
Bon, bah envoyez vos vieux exemplaires de Bob et Bobette à Traz. Et du coup, en attendant, c'est avec Todd et Todette, pour le coup, qu'il va falloir composer. Todd qui vous file des missions. Les missions, ce sont bah, des niveaux, en fait, des niveaux de plateforme 2D, comme on a l'habitude d'en voir. Sauf que, en plus d'être vraiment très rigolo de jouer avec les codes de la série, parce que là on sent que très franchement les level designers ont fait à peu près tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'on peut pas faire dans un Mario classique, parce qu'il faut quand même rester un peu sérieux et tout.
Et bien sûr,
là la digue a cédé et tout est permis, donc c'est beaucoup d'expérimentation et surtout c'est plein d'idées assez rigolote que vous allez pouvoir mettre en pratique en fait au moment où vous allez créer vos propres niveaux, comme par exemple le bouton on-off là qu'on découvre, qui ben, combiné à quelques éléments peut permettre de faire basculer des plateformes à l'intérieur d'un niveau. On va le voir juste après, où en fait il suffit d'un bloc, une carapace de Koopa, un bloc on-off, et puis vous avez un alternateur qui va fonctionner tout seul pendant tout le niveau, qui permet de faire plein de petites choses assez rigolotes. Et chacun des 100 niveaux, parce qu'il y aura à peu près une centaine de niveaux dans le mode solo, joue comme ça avec tout un tas d'idées et donne énormément d'inspiration. Même si vous n'êtes pas forcément créateur, il y a forcément des choses qui vont vous interpeller et qui vont vous faire dire putain, mais c'est pas con comme mécanique, ça même moi je pourrais en faire quelque chose.
En effet.
Donc chaque niveau utilise un skin différent et propose vraiment tout un tas d'idées très très fun. Alors vous savez que en plus des traditionnels skins qu'on avait eu dans le premier, donc à savoir Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros, là cette fois-ci vous avez au moins un skin supplémentaire avec Super Mario 3D World, donc Mario Chat et compagnie, qui du coup débloque de nouvelles mécaniques. Le fait de pouvoir grimper aux éléments du décor, etc. Donc ça amène vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et bah, ce mode histoire qu'on a pu essayer pendant une quarantaine de minutes, au travers des quelques niveaux moi, que j'ai pu faire, j'étais bluffé de voir que chaque environnement proposait de nouvelles choses. Et on sent vraiment qu'ils se sont éclatés à faire des niveaux qui partent dans tous les sens, qui vont vous plaire et vous parler si vous êtes un joueur de Mario régulier, que vous avez envie de vous amuser à faire des niveaux 2D, et surtout vous filer plein d'idées très rigolotes pour concevoir vos niveaux si vous avez l'âme d'un créateur ou d'un level designer. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses, sachant qu'une fois que vous avez terminé un niveau, vous récupérez de l'argent et vous allez pouvoir aller dépenser cet argent chez Todette, qui va vous dire bah, qu'est-ce que tu veux bâtir. Alors, il faut évidemment commencer par les fondations, hein, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, il y a une motivation en fait à refaire des niveaux pour faire avancer le mode histoire, sachant que j'ai l'impression qu'il y aura sans doute des petits à côté, il y aura des choses en plus qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et du coup, ça marche vraiment, vraiment très bien. Ça colmate un des gros points noirs, je trouve, du premier, qui était de ne pas proposer un véritable mode solo digne de ce nom, mais de faire confiance un petit peu à la communauté. Là, il y a de quoi faire. Et il y a surtout plein de nouvelles mécaniques. Là, par exemple, on est dans une Ghost House de Super Mario World. Vous avez cette mécanique des portes qui vous permet de créer des sous-niveaux. Alors, vous l'avez vu, ça peut être un sous-niveau aérien comme dans Super Mario Bros. Ça peut être un sous-niveau souterrain. Ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut d'ailleurs être vertical. C'est une des nouveautés de Mario Maker 2. Et ça m'a permis de constater dans le mode création qu'il y a tout un tas de cadenas qui s'assurent que votre niveau fonctionne bien. Puisque, par exemple, les portes, si vous en fixer une, faut forcément mettre une deuxième quelque part. Si vous décidez de la fermer à clé en combinant la clé avec la porte, bah voilà, il faut que ça marche. Si vous sortez une clé toute seule qui n'a pas de porte pour ouvrir, la clé sera un item complètement OSEF que vous allez comme ça balancer en passant devant. Il y a vraiment plein de choses, ça marche très bien. L'outil de création, lui, a été un petit peu revu. Vous aviez ces menus en ligne dans le premier Super Mario Maker. Là, vous avez une espèce d'arborescence avec des roues qui sont classées en catégories et qui vous permettent de rapidement passer d'une catégorie à une autre. Ça marche vraiment bien, je trouve que c'est plus intuitif que le premier Mario Maker, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et puis alors vous avez un tas de nouveautés en termes de sprites d'ennemis, d'effets visuels. Là on est au milieu d'un petit labyrinthe où en fonction du chemin que vous allez prendre, il y a des effets qui se déclenchent, vous allez parfois avoir l'impression que le jeu glitch, c'est fait exprès.
Il y a ah oui, effectivement, ça fait bizarre.
Des grosses pièces qui font leur apparition, qui peuvent servir aussi d'objectif, par exemple, parce que ça, c'est aussi une des principales nouveautés de cet épisode que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que vous pouvez conditionner votre niveau. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver simplement à la fin et de choper le drapeau ou la barre de Super Mario World pour terminer le niveau, vous pouvez dire, eh ben non, pour finir le niveau, il va d'abord falloir récupérer 100 pièces ou battre 3 fois Bowser Jr. ou ce genre de truc, vous avez une condition que vous pouvez
ajouter
au moment où vous créez votre niveau, histoire que quelqu'un craque pas complètement le stage que vous avez mis des heures et des heures à faire parce que vous avez oublié que avec un peu de malice on peut passer par là et plier le niveau en 10 secondes. Donc voilà, ça peut vous donner plein de nouvelles idées pour justement proposer quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez évidemment plein de niveaux jouables en multi. L'exemple que Goofy vous montre, ça mixe l'univers de Super Mario Bros 3 avec le vaisseau du boss de fin de Super Mario World. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Et quelle que soit votre cam, vous allez de toute façon y trouver votre compte parce que vous avez un outil de recherche qui est encore plus complet que le premier Super Mario Maker, puisque vous allez pouvoir chercher vraiment très loin dans la niche. Si vous êtes fan de speedrun, vous pouvez chercher des niveaux qui sont uniquement dédiés au speedrun. Si vous aimez les niveaux un petit peu différents ou basés sur des énigmes, des puzzles, vous allez pouvoir chercher ce genre de trucs. Vous allez pouvoir filtrer aussi sur le taux d'accomplissement, parce que on sait que c'était quelque chose de particulier dans le premier Super Mario Maker. Vous aviez des niveaux que tout le monde adorait mais qui étaient juste infinissables. On rappelle qu'il faut quand même terminer son propre niveau une fois pour qu'il puisse être uploadé. Il y a quand même cette vérification là.
Oui, heureusement.
Là, vous allez pouvoir choisir des niveaux qui ont un taux de complétion, par exemple au-dessus de 50%, ce genre de choses.
Par ailleurs,
oui, plus
question, est-ce que tous les niveaux qui ont été créés pour le premier Super Mario Maker, est-ce qu'ils ont déjà fait une sélection pour les ramener à nouveau dans Super Mario Maker 2, ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement?
Alors, ça n'a pas été évoqué pour l'instant. Tous les niveaux que j'ai pu faire là dans cette version de Super Mario Maker 2, c'était des niveaux originaux, parce que l'idée c'était aussi de montrer tous les nouveaux items que tu vas pouvoir utiliser, les nouvelles combinaisons, le fait qu'il y ait des mid-boss par exemple qui font leur apparition, Doom Doom de Super Mario Bros 3 que vous allez pouvoir caser à peu près n'importe où. Je ne sais pas ce qui va advenir effectivement des niveaux de la communauté du premier épisode, parce qu'effectivement on les partageait à travers des codes.
Des piétons.
Les codes font leur retour. Alors du coup, est-ce que tu vas pouvoir réutiliser effectivement tes niveaux du premier?
Ça m'attendrait que ce soit compatible. Hein.
Ce serait malheureux parce que il y a eu quand même une communauté assez forte sur 3DS et sur Wii U, mais après une communauté assez forte sur un parc de machines qui n'était pas forcément exceptionnel sur Wii U, mais
4 millions d'exemplaires quand même, ça fait 4 millions de créateurs potentiels.
C'est beaucoup, mais après peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie justement après s'être débarrassé de leur Wii U de se dire il y a des niveaux que j'avais fait que j'aimerais bien retrouver et tout, dans des niveaux ultra durs.
S'ils peuvent proposer ça serait rigolo effectivement.
Oui, parce que en plus, la communauté c'est vous et moi, mais c'est aussi des level designers de métier. Je sais qu'il y a Matt Thompson, par exemple le créateur de Céleste, qui de temps en temps fait des niveaux et balance 2-3 codes.
Ça doit être facile pour lui.
En disant j'ai fait ça cette semaine dans Mario Maker.
Et on sait que c'est lui à chaque fois.
Oui, parce que c'est son compte. D'accord. Il les tweet depuis son compte Twitter et il dit voilà mes niveaux de la semaine, les enfants, amusez-vous.
Oui, parce qu'il y a quand même des perles. Hein. Moi je voyais certains niveaux, mais je me demandais comment ils
faisaient. Et même chez les amateurs, il y a eu des trucs absolument fabuleux. Oui,
bien sûr, je parle surtout des amateurs.
Il y a des vicieux dans le temps.
Et c'est vrai qu'un des buts de l'époque que je faisais avec mon gamin, c'était d'essayer de les finir le plus vite possible. Quoi. Parce que tu voyais les scores de l'autre, et on regardait, on disait mais comment il a fait, c'est pas possible. Et généralement, c'était les Japonais qui avaient les meilleurs
scores. Toujours devant. Là, ce sera toujours pareil, hein. T'as le world record qui apparaît avec ton avatar, donc si c'est toi le plus rapide, tu pourras te la péter auprès de tes amis. Mais vraiment, en termes de nouveautés, il y a tellement, tellement de choses.
Ça a l'air très, très complet. Hein.
Le premier marchait déjà très bien avec le contenu d'époque. Je pense que ça va être un feu d'artifice et que ça va partir dans tous les sens. Ouais. Parce que entre les nouvelles skins, les nouveaux ennemis, les combinaisons, les sous-niveaux, le fait de pouvoir gérer l'eau qui va devenir de la lave en fonction de l'environnement que vous allez choisir, le fait de pouvoir alterner. Vous avez le jour et la nuit maintenant. La nuit, ça sera pas la même chose. Ça sera même pas les mêmes musiques, parce que ça, c'est pareil. Koji Kondo, le compositeur historique de la série des Mario, s'est amusé à.
Il a poussé le détail.
À enregistrer lui-même des remixes, des variations, des thèmes que vous connaissez tous, et ça marche très bien.
Donc en fonction des niveaux, de ce que tu fais.
En fonction du niveau que tu as choisi, du skin, du fait que ce soit le jour ou la nuit, tu vas avoir des thèmes différents. D'accord. C'est le jeu qui t'impose le thème en fait. C'est pas toi qui vas choisir la musique de fond.
Oui, il faut que ça reste cohérent avec l'univers et tout ça.
Exactement. Mais en l'espace d'une heure et demie, j'ai pu voir tellement de choses inventives, tellement de promesses que moi je fais entièrement confiance à la communauté des joueurs pour nous abreuver de trouvailles complètement dingues. Si vous aimez même les énigmes, les puzzles, il va y avoir un nombre de trucs hallucinants, et ça inaugure vraiment beaucoup de bon pour ce Super Mario Maker 2 qui s'annonce vraiment extrêmement extrêmement riche.
Et en matière de facilité d'exécution, etc., c'est plus simple que le premier ou pas à mettre en place ou
Alors ça dépend parce
par exemple,
que
tu... placer des canons, des machins, des...
Il faut un tout petit peu s'y faire. Moi, je t'avoue que j'avais pas fait de niveau depuis la sortie de Super Mario Maker, enfin, en gros, les semaines qui avaient suivi sa sortie. Il faut le temps de s'y refaire. On prend quand même assez rapidement le coup de main, et puis il y a une... certaines logiques en fait dans la combinaison des éléments, les déplacements, t'as toujours le bouton défaire avec, qui est d'ailleurs incarné par Undo Dog, qui est devenu déjà un mème au succès incroyable sur internet après sa présentation dans le dernier Nintendo Direct.
Je sais même pas.
C'est assez facile de s'y retrouver. Après, tu as le côté tactile évidemment qui est beaucoup plus intuitif. Une fois que la console est dockée, forcément c'est un petit peu autre chose, il faut se faire à la manette. Je t'avoue que moi j'ai été plutôt partisan d'essayer ça au tactile parce que ça me paraissait un peu plus logique.
Et vous avez filé des crayons ou pas
Non. Non, on faisait ça au doigt.
Mais il n'y a pas besoin je pense.
Ouais, mais comme ça, ils le filent aux personnes qui vont précommander l'édition de luxe, et que forcément je crois qu'un un petit stylo tactile c'est plus agréable que d'y aller au doigt.
Oui, certes.
Et plus précis aussi probablement.
Alors je pense que si vous avez vraiment envie de vous y coller, oui, ça va être un accessoire indispensable. Bah, après on peut prendre, j'imagine, n'importe quel stylet graphique. Si vous avez ça qui traîne chez vous, ça va être beaucoup plus simple. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu. Passé évidemment la période de rodage, après ça marche plutôt bien. Et par contre, je ne sais pas. Ça c'est une interrogation. Je ne sais pas comment va se passer l'ajout. Des différentes mécaniques, parce que si vous avez joué à Super Mario Maker, vous savez que au début on n'avait pas grand chose, on était obligé de créer des niveaux avec très peu d'éléments avant de pouvoir essayer de prétendre à débloquer d'autres items. Là je vous avoue qu'on avait énormément de choses débloquées d'emblée
de base,
mais c'était une version preview, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Moi j'avais trouvé ça un peu frustrant à l'époque de pas avoir plein de jouets pour m'amuser.
T'es limité et tout, donc tu te dis
là en tout cas il y avait beaucoup de choses et c'est vraiment vraiment hyper prometteur, sachant que vous l'avez sans doute remarqué pendant le Nintendo Direct, là où vous avez le skin New Super Mario 3D World, il y a comme un espace à côté, une case vide qui laisse a priori supposer que on va peut-être avoir droit à autre chose, je ne sais pas, Mario 64, Mario Odyssey, les paris sont ouverts, en tout cas il y a fort à parier qu'il y aura du contenu et que le jeu va être véritablement entretenu par Nintendo sur la durée. Bon, en tout cas, j'ai passé un excellent moment.
Bah oui,
je vois l'étendue des possibles pour reprendre une expression un peu galvaudée. Plein de nouveautés où là, vous voyez que vous pouvez modifier votre scrolling. Il peut partir dans les airs. Vous pouvez modifier la vitesse du scrolling. Enfin, il y a plein de choses. Ça s'annonce super chouette.
C'est monstrueux. Ouais. Et on attend évidemment beaucoup de la communauté qui va.
Oui, bah
proposer
on
des choses extraordinaires.
On compte sur vous, parce que c'est vous qui allez faire du jeu un succès à un moment donné.
Exactement. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Thomas.
Voilà. Donc
et d'ailleurs,
le jeu
on retrouve. Pardon. Oui, vas-y.
Sort le 28 juin sur Switch, évidemment. Donc.
Et on retrouve tes impressions écrites et en vidéo.
Tout à fait. Vous avez les impressions écrites
sur le site.
Plus du gameplay commenté, exactement. Une dizaine de minutes. Voilà.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce compte rendu complet de ce titre Nintendesk, une fois de plus. On va passer maintenant, mon cher Plume, à l'anniversaire.
Ouais, on a un bel anniversaire
de la semaine.
À fêter.
C'est vrai.
Un super anniversaire, ouais.
C'est vrai.
Bah, c'est pas le tien déjà.
Non, c'est pas le mien.
Voilà, toi c'est plus tard.
C'est plus tard.
C'est pas celui de Thomas non plus.
C'est vrai.
C'est pas celui de Camille. C'est pas celui de Poufy, c'est pas le mien. Non, c'est l'anniversaire de Hitman Blood Money.
Hit Monsieur.
Qui était sorti le 26 mai 2006.
Quelle classe.
Déjà sur PS2, Xbox et PC, qui a été adapté par la suite sur Xbox 360 à son arrivée. Un jeu, j'ai envie de dire, indispensable dans la série, qui a eu beaucoup de mal auparavant à essayer de réussir à se renouveler et à faire quelque chose de mieux que dans les deux premiers volets. Je crois que l'épisode qui a précédé Blood Money, c'était Contract, et était franchement très 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 moyen. Celui-ci avait pour particularité déjà d'avoir un scénar plutôt élaboré, enfin un scénar global plutôt élaboré, qui voyait notamment l'agent 47 mort.
Oh, il est mort,
je sais pas pourquoi.
T'as pas honte de spoiler comme ça ?
Bah, si tu le vois dès le départ. C'était la première chose que tu voyais dans le jeu, c'est l'agent 47 mort avec un Ave Maria qui planait dans le fond en même temps. Ça laissait penser que bah voilà, c'était la fin pour l'agent 47. J'en dirais pas plus, mais évidemment vous imaginez bien qu'il doit y avoir un petit twist. Et donc
celui-ci en particulier a amené énormément de mécaniques supplémentaires dans le jeu, avec des environnements beaucoup plus ouverts aussi qu'auparavant. On se rappelle notamment d'endroits où la foule abonde dans des rues, alors je sais plus si c'est pendant un carnaval, mais il y a une foule incroyable dans la rue. À l'époque, en 2006, c'était démentiel. Si je me rappelle, il y avait aussi un niveau qui se passait à l'Opéra de Paris. Chacun des niveaux vraiment était très très bien construit, très bien amené pour aller vers une seule cible à chaque fois. Et comme je le disais, des mécaniques toutes bêtes, hein, comme le fait que 47 pouvait surmonter un obstacle, par exemple, c'était quelque chose qu'il pouvait pas faire avant. Le planquer ses victimes dans des containers, dans des poubelles,
dans les bus.
C'était un truc qu'il pouvait pas faire avant. Enfin, il y avait des petits trucs comme ça, très très différents de ce qu'il pouvait faire auparavant. Et cette histoire aussi de notoriété qui n'existait pas avant et à laquelle il fallait faire très attention. Parce que si vous faisiez trop voir par des caméras de sécurité, c'était enregistré, il fallait faire très gaffe à ça. Au début de chaque niveau, vous aviez aussi votre mallette dans laquelle vous pouviez décider de ce que vous alliez utiliser en cours d'assassinat. Bref, un excellent épisode qui se retrouve aujourd'hui d'ailleurs sur une version aménagée de Hitman 2. Vous savez, le dernier Hitman qui est paru, on a une version HD en fait qui a été proposée il y a pas très longtemps, et je vous conseille d'en profiter, même si je crois que le portage n'était pas forcément génial, mais en tout cas il faut absolument y avoir joué pour comprendre ce que c'est que l'essence de Hitman aujourd'hui. Si vous avez aimé Hitman et Hitman 2, les deux derniers, n'hésitez pas à acheter un œil à celui-ci, qui en plus, oui, alors c'était bourré d'humour déjà aussi. À l'époque, c'était complètement con avec
ceux qui voient la vidéo.
Avec les costumes aussi, qui évidemment étaient fantastiques. Voilà.
Exact.
Hitman Blood Money.
Tout à fait. Et depuis des Hitman, il y en a eu un autre.
Oui, il y en a eu quelques-uns, mais pas forcément des très bons. Oui.
Chez monsieur.
Mais les derniers reprennent justement les mécaniques dont tu parles.
Complètement.
C'est plutôt les héritiers.
Ouais, les deux derniers, ouais. Après Absolution par exemple, c'était pas ça. Absolution, c'était un peu bof.
Eh bien, merci.
Ah bah de rien.
Merci
mais de rien.
Merci, mon cher Plumch, pour cet anniversaire que tout le monde aura fêté comme il se doit.
Évidemment. Bah là, on a débouché le champagne là.
Exactement. Bon bah maintenant il reste plus qu'à.
On l'a trop bu.
Il reste plus qu'à attendre le 3 et la playdate. Et c'est bon, l'année est terminée.
Ah oui, t'es sûr qu'elle va y être, toi ?
On a tout fait.
Ok.
Non, elle n'y sera pas, mais c'est pas grave.
C'est tes infos.
Exactement, tout à fait. Et bien voilà, je crois que le podcast est terminé. Tout le monde a.
Ah bah c'est toi qui décides, tu sais
ce qu'il voulait dire.
Bah oui, parce que le hors-jeu de cette semaine.
Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y.
Bah le hors-jeu de cette semaine, on va dire que c'est le 3.
Non, le hors-jeu de cette semaine, on le fera pas, ça sera le 3, exactement.
Voilà.
Donc la semaine prochaine, on fera un podcast spécial E3. Et là, normalement, il y aura du lourd avec des rumeurs, des fausses rumeurs, des trucs bizarres.
Des invités même.
Des invités, et il y aura peut-être Plume aussi, mais j'ai pas sûr.
Oh non. Ah non, moi on s'en fout de moi.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, moi le 3.
Bon, peut-être Thomas alors, je sais pas, mais.
Ok.
Tu sais, moi j'aime pas Los Angeles, ce sera Thomas, ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
T'aimes pas les œufs en gelée ? Bon, tant pis pour toi.
Oh là là.
Non, c'était naze, hein. Je sais pas pourquoi il se marre, mais bon, c'est la fatigue en fait. On commence déjà à être fatigué, le 3 n'a pas commencé.
Putain, oui, mais c'est ça qui est bien avec la fatigue, c'est que tu rigoles de tout.
C'est vrai ?
C'est le meilleur état du monde.
T'as ri là, toi ? Moi j'ai pas ri. Hein.
Bah si, ah, moi j'ai rigolé.
Ah ouais ?
Ah ouais, c'était tellement nul.
Pour le 3, c'est après... ça quand tu ris ? Ouais. Oh merde ! Ouh, je savais pas, pardon.
Ça se passe comme ça, Chantilly. Tu savais pas ?
Allez, ça vous fait rire par contre.
Non, pas du tout.
Ouais, ça j'avoue, ouais.
Bon, bah voilà, sur ce trait d'humour à 2,50 balles, on se dit au revoir. Merci, messieurs, dames.
Bah, merci.
Plein de bisous.
Merci Poufy, la technique.
Wesh.
Et puis évidemment. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un podcast spécial E3. Et évidemment, là. On va
mais bon, c'est
on va
ça qui donner. Va être fantastique, c'est le sera le 3 2018 donner. Et c'est ça que c'est là qu'on va vous prendre à revers, c'est qu'on va faire tout le bilan du le 3 2018.
Exactement.
Et le 2019. Tiens.
Non, mais c'est ça sera ce qu'il faut en attendre de cette E3 justement, tout ce qu'on peut vous dire
les leaks, les rumeurs,
ouais. Les certitudes. Il y aura bien quelques leaks Ubisoft avant la
semaine. Oh, bah, déjà eu un, tu sais, avec le fameux pass premium.
C'est pour ça. Donc
voilà.
On n'est plus un leak prêt de toute façon.
Non.
Et bien merci à toutes et à tous, n'est-ce pas ? Et on se retrouve nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien.
Des gros bisous.
Salut.